Chapitre 11. Rappel et avertissement. Suite. Se souvenir de ce que Dieu a fait. Tu aimeras donc l'Éternel ton Dieu, et tu garderas ce qu'il te donne à garder, et ses statuts, et ses ordonnances, et ses commandements, toujours. Et vous savez aujourd'hui, car je ne parle pas à vos fils qui n'ont pas connu et n'ont pas vu le châtiment de l'Éternel, votre Dieu, sa grandeur, sa main forte et son bras étendu, et ses signes et ses œuvres qu'il a fait au milieu de l'Égypte, au Pharaon, roi d'Égypte, et à tout son pays, et ce qu'il a fait à l'armée de l'Égypte, à ses chevaux et à ses chars, sur lesquels il a fait déborder les eaux de la mer Rouge lorsqu'il vous poursuivait, et l'Éternel les a fait périr jusqu'à aujourd'hui. Et ce qu'il vous a fait dans le désert, jusqu'à ce que vous soyez arrivés en ce lieu-ci. Et ce qu'il a fait à Dathan et à Abiram, les fils d'Éliab, fils de Ruben, quand la terre ouvrit sa bouche et les engloutit, avec leurs maisons et leurs tentes, et tout ce qui était à leur suite, au milieu de tout Israël. Car ce sont vos yeux qui ont vu toute la grande œuvre de l'Éternel qu'il a faite. Versets 1 à 7. Il était de toute importance que les grandes œuvres de l'Éternel demeurent toujours devant les yeux des enfants d'Israël et restent profondément gravées dans leur mémoire. L'esprit humain est vagabond et le cœur léger, et malgré tout ce qu'Israël avait vu des jugements de Dieu sur l'Égypte et sur le Pharaon, il était en danger de les oublier et de laisser s'effacer l'impression qu'ils devaient produire sur lui. Nous sommes portés à nous étonner que les Israélites puissent oublier les événements qui avaient marqué leur séjour en Égypte, le fait que leur père y était descendu, une petite poignée d'hommes, et qu'ils s'y étaient accrus malgré tous les obstacles, au point de devenir extrêmement nombreux. Et ces 10 plaies sur la terre d'Égypte, quelles avaient été terribles, et bien propres à donner une idée de la grande puissance de Dieu et à montrer la folie qu'il y a à vouloir s'opposer à lui. Qu'était toute la puissance du Pharaon en présence de l'Éternel, le Dieu d'Israël? En très peu de temps, tout avait été plongé dans la ruine et la désolation. Et à la mer Rouge, tous les chars d'Égypte, toute la gloire de cette antique nation, avaient été engloutis. Et pourquoi? Parce qu'ils avaient osé toucher Israël. Ils avaient osé s'opposer au dessein du Très-Haut. Ils avaient tenté d'écraser ceux en qui il avait mis son bon plaisir. Il avait juré de bénir la postérité d'Abraham, et aucune puissance de la terre ne pouvait annuler son serment. Le Pharaon, dans son orgueil et dans la dureté de son cœur, avait cherché à contrecarrer les plans divins, mais cela avait été pour sa perte. Et ce n'était pas seulement ce que l'Éternel avait fait à l'Égypte et au Pharaon que le peuple devait se rappeler, mais encore ce que Dieu avait fait parmi eux. Quelle leçon que le jugement exécuté sur Dathan et Abiram et leur famille! Quel châtiment terrible leur avait été infligé! Et pour quelle raison? À cause de leur rébellion contre ce que Dieu avait établi. Dans le récit que nous donne le livre des Nombres, le Lévite Corée joue le rôle principal. Ici, il n'est pas mentionné, mais bien deux Rubénites, deux simples membres de la congrégation. Moïse cherche à agir sur l'ensemble du peuple, en plaçant devant eux les conséquences de l'insubordination de deux d'entre eux. Dans tous ces rappels, le but de Moïse était toujours d'imprimer dans leur cœur et leur esprit le sentiment profond de l'obéissance qu'ils devaient à l'Éternel. Comment être fort? Vous garderez donc tout le commandement que je vous commande aujourd'hui, afin que vous soyez fort, et que vous entriez, et que vous possédiez le pays dans lequel vous passez pour le posséder, et afin que vous prolongiez vos jours sur la terre que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, à eux et à leurs semences, un pays ruisselant de lait et de miel. Versets 8 et 9. Remarquons la liaison qui existe entre les deux parties de l'exhortation. Vous garderez donc tout le commandement, afin que vous soyez forts. On acquiert une grande force en obéissant sans réserve à la parole de Dieu. Les paroles de Moïse rappellent à notre mémoire la prière de l'apôtre pour les croyants de Colosse. C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons ouï parler, nous ne cessons pas de prier et de demander pour vous que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, pour lui plaire à tous égards, portant du fruit en toute bonne œuvre et croissant par la connaissance de Dieu, étant fortifiés en toute force, selon la puissance de sa gloire, pour toute patience et constance, avec joie, rendant grâce au Père, qui nous a rendus capables de participer au lot des saints dans la lumière, qui nous a délivrés du pouvoir des ténèbres, et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Colossiens 1, versets 9 à 14. Tout en tenant compte de la différence entre ce qui est terrestre et ce qui est céleste, entre Israël et l'Église, on constate une grande ressemblance entre les paroles de Moïse et celles de l'apôtre. Les unes et les autres nous montrent la valeur d'une vraie obéissance, une obéissance de cœur à notre Dieu. Ces paroles devraient fortifier dans nos cœurs le désir d'être remplis de la connaissance de sa volonté, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, pour lui plaire à tous égards, portant du fruit en toute bonne œuvre et croissant par la connaissance de Dieu. Cela devrait nous pousser à une étude plus diligente de la parole de Dieu, afin d'apprendre à connaître toujours mieux sa volonté, ses pensées, ce qui lui plaît, en regardant à lui pour pouvoir l'accomplir. Alors nos cœurs seraient gardés près de lui, et nous trouverions toujours plus d'intérêt à sonder les Écritures, non seulement pour croître dans la connaissance de la vérité, mais dans la connaissance personnelle de Dieu et de Christ. Les pluies des cieux sur Canaan. Car le pays où tu entres pour le posséder n'est pas comme le pays d'Égypte d'où vous êtes sortis, où tu semais ta semence et où tu l'arrosais avec ton pied comme un jardin à légumes. Mais le pays dans lequel vous allez passer pour le posséder est un pays de montagnes et de vallées. Il boit l'eau de la pluie des cieux, un pays dont l'Éternel, ton Dieu, a soin, sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux depuis le commencement de l'année jusqu'à la fin de l'année. Versets 10 à 12. Quel contraste frappant entre l'Égypte et Canaan. L'Égypte n'avait pas de pluie des cieux. Tout y était travail humain. Il n'en était pas ainsi dans le pays de l'Éternel. Le pied de l'homme n'avait rien à faire pour l'irriguer, car l'Éternel lui-même en prenait soin, et l'arrosait de la pluie des cieux, de la première à la dernière saison. Le pays d'Égypte dépendait de ses propres ressources, alors que le pays de Canaan dépendait de Dieu, de ce qui descendait des cieux. « Mon fleuve est à moi. » Tel était le langage d'Égypte. Ézéchiel 29, verset 3. Le ruisseau de Dieu était l'espérance de Canaan. Le psaume 65 nous présente une belle description du pays de l'Éternel dans son état de bénédiction. Tu as visité la terre, tu l'as abreuvée, tu l'enrichis abondamment, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares les blés, quand tu l'as ainsi préparé. Tu arroses ses sillons, tu aplanis ses mottes, tu l'amollis par des ondées, tu bénis son germe. Tu couronnes l'année de ta bonté et tes sentiers distillent la graisse. Ils distillent sur les pâturages du désert et les collines se saignent d'allégresse. Les prairies se revêtent de menu bétail et les plaines sont couvertes de froment. Versets 9 à 13. Qu'il est beau de voir Dieu lui-même répandre ainsi l'abondance sur son peuple, faire tomber les rayons de son soleil et verser ses ondées rafraîchissantes sur les collines et les vallées du pays d'Israël. C'est ainsi qu'elle en aurait toujours été si Israël avait marché dans l'obéissance à la loi de Dieu. Et il arrivera que, si vous écoutez attentivement mes commandements que je vous commande aujourd'hui, pour aimer l'Éternel, votre Dieu, et pour le servir de tout votre cœur et de toute votre âme, alors je donnerai la pluie de votre pays en son temps, la pluie de la première saison et la pluie de la dernière saison, et tu recueilleras ton froment et ton moût et ton huile, et je donnerai l'herbe dans tes champs pour ton bétail, et tu mangeras et tu seras rassasié. Versets 13 à 15. Tel était le pacte entre Dieu et Israël. Le privilège d'Israël était d'aimer et de servir l'Éternel. La prérogative de l'Éternel était de bénir et de faire prospérer Israël. Le bonheur et l'abondance devaient être les résultats assurés de l'obéissance. Le peuple et son pays dépendaient entièrement de Dieu. Tout ce dont ils avaient besoin devait venir du ciel. Aussi longtemps qu'ils marchèrent dans l'obéissance, les pluies bienfaisantes arrosèrent leurs champs et leurs vignes. Mais lorsqu'ils oublièrent l'Éternel et ses commandements, la stérilité, la famine et la misère furent les tristes fruits de leur désobéissance. Il y a dans tout cela une instruction pratique pour nous. Quoique nous ne soyons pas sous la loi, nous sommes appelés à l'obéissance, et dans la mesure où nous y marchons, nous sommes bénis spirituellement, nos âmes sont arrosées, rafraîchies, fortifiées, et nous sommes remplis du fruit de la justice, qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Philippiens 1, verset 11. Porter du fruit. En rapport avec ce sujet, lisons le commencement du chapitre 15 de Jean, au sujet du cep et des sarments, au verset 1 à 10. Ce passage doit être pris dans sa simplicité. Si l'on y cherche un sens qui ne s'y trouve pas, il devient obscur, et l'on en perd la véritable application. Nous avons donc ici Christ, le vrai cep, prenant la place d'Israël, qui était devenu pour l'Éternel une vigne dégénérée. La scène de la parabole est évidemment sur la terre et non dans le ciel. Il n'y a dans le ciel ni vigne ni cultivateur. Notre Seigneur dit « Moi je suis le cep, vous les sarments ». L'image est très claire. Ce n'est pas la tête et ses membres, mais un cep et ses sarments. Il ne s'agit pas de la vie éternelle, mais de porter du fruit. Si on se souvenait de cela, on comprendrait mieux ce passage si souvent mal interprété. L'image du cep et de ses sarments nous enseigne que le secret pour porter du fruit, c'est de demeurer en Christ, et le moyen de demeurer en Christ, c'est de garder ses commandements. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Le moyen de porter du fruit en sa saison, c'est de demeurer dans l'amour de Christ, et nous montrons que nous sommes dans cette position bénie en gardant ses commandements dans nos cœurs et en y obéissant de bon gré. Il ne s'agit pas de nous agiter, poussés par nos propres pensées, ni de faire des efforts pour montrer notre dévouement. Non, il s'agit de marcher dans la calme et sainte obéissance du cœur envers notre Seigneur bien-aimé, afin de lui être agréable et de glorifier son nom. Il est à craindre que bien des choses qui passent pour du fruit dans la chrétienté n'en soient pas véritablement dans la présence de Dieu. Il ne peut reconnaître comme fruit que ce qui provient directement du fait qu'on demeure en Christ. On peut se faire un nom parmi les hommes, par son zèle, son activité et son dévouement, et avec tout cela ne pas produire une seule grappe de fruits qui soit acceptable au cœur du Père. Par contre, si nous demeurons en Christ, dans son amour, si nous serrons ses paroles dans notre cœur et que nous obéissions de bon cœur à ses commandements, alors nous porterons du fruit en sa saison, notre Père sera glorifié et nous croîtrons dans la connaissance pratique de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Les conséquences de la désobéissance. À la fin de notre chapitre, Moïse avertit le peuple des conséquences terribles de la désobéissance, de même que notre Seigneur, en Jean 15, avertit ses disciples en leur montrant le jugement solennel du sarment stérile. Prenez garde à vous, de peur que votre cœur ne soit séduit, et que vous ne vous détourniez et ne serviez d'autres dieux, et ne vous prosterniez devant eux. Verset 16. Nous voyons ici la pente fatale qui conduit au mal. Le cœur séduit, c'est le commencement du déclin. Ensuite, les pieds suivent le cœur. De là vient la nécessité de garder le cœur avec soin. Tant qu'on le garde pour le Seigneur, l'ennemi n'obtiendra aucun avantage. Mais quand le cœur s'égare, tout est perdu. On se détourne. Et que la colère de l'Éternel ne s'embrase contre vous, et qu'il ne ferme les cieux, en sorte qu'il n'y ait pas de pluie, et que la terre ne donne pas son rapport, et que vous périssiez rapidement de dessus ce bon pays que l'Éternel vous donne. Verset 17. Hélas, combien de fois Israël n'eut-il pas à éprouver la terrible réalité de ces paroles ? Il change les fleuves en désert, et les sources d'eau en sol aride. la terre fertile en terre salée, à cause de l'iniquité de ceux qui y habitent. Psaume 107, versets 33 et 34. La terre stérile et le désert sont l'image d'une âme qui a perdu la communion avec Christ. Une telle âme n'a pas de communication rafraîchissante avec le ciel, pas d'ondée bienfaisante. Le cœur perd le sentiment de la valeur de Christ. La Bible semble un livre scellé. Tout est sombre et désolé. Quoi de plus misérable qu'une âme dans cet état? Puissions-nous, chers lecteurs, n'en jamais faire l'expérience. La parole de Dieu honorée dans la maison. Et mettez ces miennes paroles dans votre cœur et dans votre âme, et liez-les pour signes sur vos mains, et qu'elles soient comme des frontaux entre vos yeux, et vous les enseignerez à vos fils en leur en parlant, quand tu seras assis dans ta maison, et quand tu marcheras par le chemin, et quand tu te coucheras, et quand tu te lèveras, et tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes, afin que vos jours et les jours de vos fils, sur la terre que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, soient multipliés comme les jours des cieux qui sont au-dessus de la terre. Versets 18 à 21. Combien le cœur de Moïse désirait que le peuple puisse jouir de jours semblables. La condition était de garder les commandements de l'Éternel dans leur cœur et de vivre dans l'atmosphère de sa parole. Tout dépendait de cela. Toutes les bénédictions du pays de Canaan, de ce bon pays découlant de lait et de miel, de ce pays sur lequel les yeux de l'Éternel se reposaient toujours avec sollicitude, devaient être à eux pour toujours, à condition qu'ils obéissent à la parole du Dieu de leur alliance. La conquête du pays promis. Car si vous gardez soigneusement tout ce commandement que je vous commande, pour le pratiquer, en aimant l'Éternel, votre Dieu, en marchant dans toutes ses voies et en vous attachant à lui, l'Éternel dépossédera toutes ces nations devant vous, et vous prendrez possession de nations plus grandes et plus fortes que vous. Versets 22 et 23. Une victoire sûre et certaine les attendait. La destruction de tous les obstacles et une entrée triomphante dans la terre promise leur étaient assurées, à condition qu'ils obéissent de cœur aux statuts et aux commandements de leur libérateur. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Votre limite sera depuis le désert et le Liban, depuis le fleuve Euphrate, jusqu'à la mer d'Occident. Personne ne pourra tenir devant vous. L'Éternel, votre Dieu, mettra la frayeur et la crainte de vous sur la face de tout le pays que vous foulerez, comme il vous l'a dit. Versets 24 et 25. Tout le pays était devant eux. Ils n'avaient qu'à en prendre possession comme d'un don gratuit de Dieu. Ils n'avaient qu'à poser leurs pieds avec foi et confiance sur ce bel héritage que la grâce souveraine leur avait destiné. Nous voyons tout cela accompli dans le livre de Josué, au chapitre 11. Et Josué prit tout le pays selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse, et Josué le donna en héritage à Israël selon leur distribution, selon leurs tribus. Et le pays se reposa de la guerre. Verset 23. C'était là le côté divin de la question. Mais, hélas, il y avait aussi le côté humain. La possession de Canaan réalisée par la foi de Josué était une chose. Canaan, effectivement possédé par Israël, en était une autre. De là la grande différence qu'il y a entre Josué et les juges. En Josué, nous voyons la fidélité de Dieu quant à sa promesse. Dans les juges, nous voyons les misérables chutes d'Israël dès le début. Dieu avait promis que nul ne pourrait subsister devant eux. Et l'épée de Josué accomplit entièrement cette promesse. Mais le livre des juges nous montre qu'Israël ne put pas chasser l'ennemi, ni prendre possession de l'héritage divin dans toute sa magnificence. La promesse de Dieu a-t-elle fait défaut? Non. Mais ce qui se montre, c'est la complète impuissance de l'homme. Nous voyons partout ces deux choses dans le volume divin. L'homme ne sait pas s'élever à la hauteur de la révélation divine et prendre possession de ce que la grâce lui donne. Cela est aussi vrai dans l'histoire de l'Église que dans celle d'Israël. Regardons ce qui nous concerne personnellement. Combien peu nous apprécions réellement les grands privilèges de l'appel dont Dieu nous a appelés. Mais cela n'anéantit pas la vérité de Dieu. sa parole subsiste dans toute son intégrité et reste stable à jamais. Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Il n'y a aucune limite aux privilèges qui sont liés à notre position. Mais la jouissance que nous en avons dépend de la foi par laquelle nous prenons possession de tout ce que Dieu nous a donné en Christ. N'oublions jamais que c'est le privilège du chrétien de vivre à la hauteur de la révélation divine. Il n'y a pas d'excuse pour une marche relâchée, pour une vie superficielle. Nous n'avons pas le droit de dire que nous ne pouvons pas réaliser la plénitude de notre part en Christ, que nous ne pouvons espérer jouir de bénédictions si merveilleuses dans notre état actuel d'imperfection. Cela ne serait pas autre chose que de l'incrédulité. La question est : la grâce de Dieu nous a-t-elle accordé ces privilèges ? La mort de Christ nous y a-t-elle donné droit ? S'il en est ainsi, et l'Écriture le déclare, pourquoi n'en jouirions-nous pas ? Du côté de Dieu, il n'y a pas d'obstacle. C'est le désir de son cœur que nous possédions la plénitude de ce qu'il nous a donné en Christ. Écoutons les vœux ardents que forme l'apôtre en faveur des croyants dans le premier chapitre de l'Épître aux Éphésiens, versets 18 à 23. Cette merveilleuse prière nous montre combien l'Esprit de Dieu désire que nous comprenions les glorieux privilèges de la position chrétienne et que nous en jouissions. Par son précieux ministère, il voudrait maintenir nos cœurs à cette hauteur, mais, hélas, comme Israël, nous l'affligeons par notre incrédulité et nous privons nos propres âmes d'incalculables bénédictions. Toutefois, le Dieu de toute grâce accomplira chaque mot de sa précieuse parole à l'égard de son peuple terrestre aussi bien que de son peuple céleste. Israël jouira pleinement de toutes les bénédictions qui lui sont assurées par l'Alliance éternelle, et l'Église goûtera les fruits excellents de tout ce que l'amour et les conseils divins ont préparé pour elle en Christ. La bénédiction et la malédiction. Les derniers versets de notre chapitre terminent la première section du livre du Deutéronome. Elle consiste, comme le lecteur l'aura remarqué, en une série de discours adressés par Moïse à la congrégation d'Israël. Les dernières exhortations, en parfait accord avec le reste, insistent sur la nécessité de l'obéissance, sujet sur lequel ne se lasse pas de revenir ce serviteur de Dieu dans ses discours d'adieu au peuple. Regarde, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous écoutez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, que je vous commande aujourd'hui. La malédiction, si vous n'écoutez pas les commandements de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez du chemin que je vous commande aujourd'hui pour aller après d'autres dieux que vous n'avez pas connus. Et il arrivera que, quand l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays où tu vas pour le posséder, tu mettras la bénédiction sur la montagne de Garizim et la malédiction sur la montagne d'Ébal. Ces montagnes ne sont-elles pas de l'autre côté du Jourdain, par-delà le chemin du soleil couchant qui traverse le pays des Cananéens qui habitent dans la plaine, vis-à-vis de Gilgal, à côté des chaînes de Morée? Car vous allez passer le Jourdain pour entrer, pour posséder le pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Et vous le posséderez, et vous y habiterez. Et vous prendrez garde à pratiquer tous les statuts et les ordonnances que je mets aujourd'hui devant vous. Versets 26 à 32. Nous avons ici le résumé de tout. La bénédiction est liée à l'obéissance, la malédiction à la désobéissance. La montagne de Garizim est vis-à-vis de la montagne d'Ébal. Fertilité et stérilité. Nous verrons, quand nous en serons au chapitre 27, que la montagne de Garizim et ses bénédictions sont entièrement laissées de côté. Les malédictions de la montagne d'Ébal frappent l'oreille d'Israël, tandis qu'un silence terrible règne sur la montagne de Garizim. Tous ceux qui sont sur le principe des œuvres de loi sont sous malédiction. Galates 3, verset 10. La bénédiction d'Abraham ne peut venir que sur ceux qui sont sur le terrain de la foi. Mais nous développerons ce sujet par la suite.